Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser va vous proposer une réflexion sur la violence. Non pas que nous deviendrions plus violents, c'est une question qui mérite une réponse très documentée et qui mérite aussi d'être bien problématisée. Non, mais parce que dans cette période de transformation très rapide et très profonde que nous connaissons, la violence nous taraude. Elle a valeur de baromètre de nos inquiétudes démocratiques. C'est la raison pour laquelle nous allons essayer d'identifier les causes profondes du retour de la question de la violence. Et nous allons commencer ce soir avec Jean-Claude Menot, philosophe, qui analyse notre moment historique en termes de crise de gouvernementalité. Cette lecture est bien sûr directement inspirée par la pensée de Michel Foucault, sur laquelle il revient d'ailleurs dans son dernier livre, « L'art de ne pas être trop gouverné ». Mais ce travail s'inscrit dans un travail au long cours sur la démocratie, et notamment, je pense, à son livre précédent, « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?» Bonsoir Jean-Claude Menot.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, la violence est à la fois une question immense, j'en ai bien conscience, et ce qu'on voudrait, c'est essayer de comprendre ce qu'elle nous dit de notre moment historique. Mais avant tout, Jean-Claude Menot, comment est-ce qu'on peut définir la violence ?
La définition de la violence, c'est un enjeu, c'est une question plus difficile qu'elle n'en a l'air,
oui.
Parce que ça engage ensuite évidemment une conception de la violence, une délimitation aussi de son champ d'exercice.
Surtout que c'est un concept Janus en fait, c'est un concept qui est ambivalent.
Oui, c'est un concept ambivalent. Alors on peut essayer quand même de le délimiter en disant que c'est une forme d'action par laquelle un être libre ou un groupe tente d'agir sur la volonté d'un autre être ou d'un autre groupe pour le contraindre dans une certaine direction ou pour, disons, profiter de lui, l'exploiter ou simplement orienter d'ailleurs son action. Alors, c'est vrai qu'il y a un type de définition de la violence dans la philosophie qui insiste justement cette dimension de liberté, au fond, de rapport entre deux libertés, alors qui peut aller jusqu'à l'anéantissement de l'une, et dans ce cas-là, en un sens, ça s'arrête là, mais qui peut aussi amorcer une espèce de processus éventuellement de reconnaissance, c'est-à-dire que au fond, bon, on ne parle pas de violence quand on casse un caillou, on ne parle pas de violence. Alors, on parle peut-être de violence quand quelqu'un bat son chien,
oui,
par exemple.
Et de plus en plus, la violence faite à la nature en termes écologiques.
Alors, est-ce qu'il faut parler de violence faite à la nature, c'est une question, c'est-à-dire est-ce qu'on est encore dans le cadre de la violence ou est-ce qu'il faut quand même un rapport entre des libertés pour parler de violence? Et si on parle de violence, par exemple, faite à un chien, c'est parce qu'on inclut sans doute la dimension de la souffrance. Donc, je pense qu'il y a une définition qui est plutôt centrée sur ce rapport entre des libertés, sur la contrainte exercée sur une liberté, et une définition qui va plutôt du côté de la souffrance et de l'exercice d'une action qui fait jouer la souffrance ou la peur de la souffrance pour obtenir un effet. Et ça, au fond, le chien, si on le gronde, etc., voilà, on est déjà dans ce cas.
Alors, on est dans un rapport paradoxal à la liberté, Jean-Claude Menot, parce que la liberté ne peut s'exercer qu'à la condition qu'un ordre s'installe, et cet ordre, il s'installe par la violence, mais par une violence légale.
Oui, alors ça, c'est l'autre gros abîme de la question de la violence en philosophie, c'est de savoir si finalement l'ordre civil, et si on veut l'État, s'instaure comme réponse ou comme réplique à une sorte de violence originelle, naturelle, une sorte de chaos, une anarchie originelle, ou si l'État est lui-même, au fond, le premier acte de violence, par exemple de conquête d'un groupe, de razzia, d'un groupe dominant qui met en tutelle, met sous tutelle ou met en esclavage un autre groupe. Et donc, dans ce cas-là, au fond, la violence, c'est plutôt cet acte premier qui est la constitution d'un ordre imposé et qui va se perpétuer éventuellement dans le droit. Et là, on a, je pense, deux grandes traditions d'analyse de la violence. L'une qui est plutôt l'idée d'une sortie de la violence ou d'une première violence dans la violence légale dans l'ordre, par éventuellement le contrat ou par une sortie dans l'État, dans l'ordre civil. Bon, c'est disons la voie de Hobbes. Et il y a une autre vision qui est l'idée plutôt que l'État lui-même ou la contrainte est déjà une sorte de première violence et d'un groupe sur un autre. Et c'est plutôt une voie, disons, de Marx ou de, éventuellement de Foucault. C'est-à-dire qui se poursuivra dans une critique du droit.
C'est ça.
Mais du droit comme violence.
Entre les deux, si je puis m'exprimer ainsi, Jean-Claude Monod, il y a cette expression qu'on entend peut-être un peu trop d'ailleurs, le monopole de la violence légitime qu'on doit à Max Weber.
Oui. Alors Max Weber justement a essayé de cerner un peu cette question d'ailleurs de ce qui fait la spécificité de l'État parmi d'autres groupes. Est-ce qu'on peut trouver un critère de l'État ? Et il a eu l'impression que finalement ça se nouait autour de ce monopole de la violence physique légitime. Oui. C'est, il faut citer la définition
c'est ça,
complète.
Oui,
alors Gewalt, c'est vrai que c'est un terme qui veut dire à la fois violence, pouvoir, force. Mais disons, il y a, je crois, cette idée que, au fond, d'autres groupes prétendent éventuellement pouvoir exercer la violence. Mais l'État est le seul qui peut dire qu'il le fait au nom, justement, de la loi. D'ailleurs, on dit au nom de la loi, je vous arrête.
C'est ça.
Et ça, aucun autre groupe ne peut prétendre exercer la violence au nom de la loi. Ce qui, pour d'ailleurs Weber, ne justifie pas n'importe quelle violence au sein de l'État.
Oui.
Parfois, ça a été utilisé récemment, non, il n'y a pas de violence policière, puisque l'État, de toute façon, a le monopole de la violence légitime, etc. Ça ne veut pas dire que toute violence est légitime. C'est un concept sociologique, c'est-à-dire l'État, c'est ce groupe qui se caractérise par le fait qu'il peut dire que la violence qu'il exerce, il le fait au nom de la préservation de l'ordre, etc.
Et ça tient beaucoup aussi au contexte dans lequel Max Weber écrit ça. Il écrit ça au moment où l'Allemagne est travaillée à la sortie de la guerre 14 par les corps francs. Et d'ailleurs, ces bandes violentes organisées vont durer jusqu'au nazisme. Et le nazisme étant une conversion de ces bandes organisées par certains côtés.
Oui, je pense que notamment dans les conférence qu'il fait juste après la guerre, Weber pense aussi à ces groupes paramilitaires d'extrême droite d'ailleurs ou d'extrême gauche qui essayent de mettre à bas l'État. Alors, en un sens, pour créer peut-être un autre État, une autre légalité, et s'ils arrivent à créer une nouvelle légalité, à la limite, Weber dirait que voilà, c'est le nouvel État, c'est le nouvel exercice de la violence légitime.
Ce qui s'est passé, ce qui va se passer d'ailleurs avec le nazisme.
Mais c'est vrai que je pense que ce qui est important, c'est évidemment tout ce phénomène, tout ce processus historique par lequel l'État a monopolisé la violence, c'est-à-dire a fait aussi que les particuliers n'avaient plus le droit de régler eux-mêmes leurs différends, évidemment. C'est-à-dire la vente d'État, la vengeance privée n'est plus autorisée dès lors que l'État moderne, disons, enfin pour simplifier, s'impose. C'est-à-dire il y a une contrainte juridique qui est exercée par l'État. Et les particuliers ne peuvent plus user légitimement de la violence entre eux.
On voit bien, Jean-Claude Monod, à quel point cette contrainte juridique, à laquelle je ne peux être que très attaché en tant que juriste et en tant que magistrat, on voit bien à quel point elle est fragile, parce qu'elle repose sur une croyance. Mmh. Et sur une croyance qui, à des moments de prospérité, à des moments glorieux sur ce qu'on va construire, et puis des moments où on a l'impression qu'elle perd de son capital. Et c'est précisément notre moment historique. Historique, où on a l'impression que la confiance dans les institutions, et donc à commencer par le droit, ce qui devrait distinguer la force légitime de la loi de la violence contre la loi, à l'égal, on a l'impression que cette différence est de plus en plus floue.
Oui, parce qu'effectivement, je pense qu'elle implique le respect de l'État, et le respect de l'État et des institutions, dont l'institution pénale et judiciaire, comme institution neutre. Et à partir du moment où l'État ou les institutions pénales sont vues comme étant trop au service d'un groupe déterminé ou d'une force, etc.
D'une classe,
cette dimension de respect du droit, de la légalité, s'estompe. Et on estime que finalement, il faut soit tourner la loi, soit éventuellement dénoncer la fausse neutralité du droit, de l'État, etc. Et je pense que c'est une tendance actuelle.
Oui.
qui s'explique parfois par le sentiment que la justice est mal exercée ou que l'État se met trop au service des intérêts dominants. Mmh. Donc, ce qui réactive une certaine critique marxienne ou anarchisante du droit. Mais évidemment, ce qui peut aussi avoir des effets assez délétères en termes de vivre ensemble, coexistence pacifique des groupes.
Mais alors, Jean-Claude Monod, vous rappelez dans votre dernier livre, fort opportunément d'ailleurs, que le néolibéralisme, qui est accusé aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs, de beaucoup de maux, mais vous rappelez que le néolibéralisme, si on pense à quelqu'un comme Hayek, il se fonde sur une défiance à l'égard de l'État. Et on pourrait ajouter d'ailleurs qu'il est suivi en cela par le numérique, par les libertariens de la côte ouest américaine. C'est-à-dire qu'une partie de notre modernité, l'économie, les échanges, la circulation, loin du politique, pourrait-on dire, et le numérique, partagent tous les deux cette défiance justifiée à l'égard de l'État. Parce que pour eux, l'État, ça voulait dire l'État totalitaire, l'État autoritaire.
Oui, alors il y a un aspect du néolibéralisme, je pense, qui est lié à ce que d'ailleurs Foucault appelle la phobie de l'État, qui est lié aussi bien sûr à des expériences totalitaires qui ont marqué des gens comme Hayek ou comme Röpke ou comme les ordolibéraux allemands. Le néolibéralisme s'est aussi construit au fond sur le fond d'une expérience de violence radicale qui a été l'expérience totalitaire. Mais certains en ont conclu effectivement que, au fond, dès qu'il y avait un peu trop d'État-providence, un peu trop d'État social, etc., on était dans la route de la servitude, comme dit Hayek, c'est-à-dire on était sur la voie du totalitarisme. Et donc, il fallait, alors non pas supprimer complètement l'État, parce que ce n'est pas ça qui est en jeu dans le néolibéralisme, c'est plutôt, et ça Foucault l'a bien souligné, je crois, le redéployer, le mettre éventuellement au service du marché, hein, comme il dit, ce n'est plus l'État qui surveille le marché, c'est plutôt le marché qui surveille l'État, qui a ce renversement, et c'est effectivement une reconfiguration qui a totalement, je pense, transformé la gouvernance, comme on dit, ou la gouvernementalité des sociétés occidentales depuis plusieurs décennies, et qui, à mon avis, touche aujourd'hui une limite. Enfin, on voit qu'il y a une crise de l'État néolibéral ou du néolibéralisme aujourd'hui, sous différents facteurs.
Crise du non-État néolibéral, on pourrait dire, parce qu'il y a un travail de dessaisissement de l'État, l'État n'ayant pour seule tâche, selon Hayek, que de créer artificiellement un marché, de façon à mettre les gens en concurrence, là il n'y en a pas. Les chercheurs sont des gens qui pacifiques et qui sont partagés par des écoles de pensée, mais on va les mettre en concurrence pour avoir leur budget, c'est comme ça que ça fonctionne, de façon à ce qu'ils se battent pour sortir le meilleur d'eux-mêmes. Alors, est-ce qu'on serait pas, Jean-Claude Monod, à un moment de notre histoire de l'État, ce que vous appelez une crise de gouvernementalité, où on hésite finalement entre deux options. L'option se méfier de l'État et une violence qui nous protège de cette violence légale et abusive, et en même temps une demande d'État, une demande très forte d'État pour contrer le marché, de rétablir en quelque sorte l'ordre normal d'un politique au-dessus du marché.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un épuisement de l'idée que l'extension du marché ou le modèle du marché puisse être la réponse à tous les maux. Bon, je pense que c'est une croyance qui a pu s'imposer justement après aussi l'effondrement de l'URSS, etc. Oui. Il y a eu des facteurs historiques qui ont favorisé l'extension du néolibéralisme dans les années 1970-80. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un appel à la puissance publique. Alors, on le voit évidemment dans des situations de crise, que ce soit les crises économiques, les crises financières ou évidemment aujourd'hui les crises sanitaires, tout à coup la puissance publique s'impose, y compris à des gens qu'on voyait comme plutôt libéraux ou néolibéraux, y compris notre président de la République qui se met à faire l'éloge du non-marché, des mécanismes de service public, de l'hôpital public, et à dire qu'il ne faut pas, quel qu'en soit le coût, c'était assez frappant.
Oui, c'est ça, ça veut dire que le coût est subordonné aux politiques.
Le coût est subordonné aux politiques et aux nécessités de la solidarité, de la puissance publique, et ça, ce n'était pas un registre quand même très habituel du néolibéralisme, même si je pense qu'il y a une certaine plasticité de la pensée néolibérale qui fait que dans des situations de crise, ces gens peuvent tout à fait dire qu'il faut un État fort. Oui, hein. Oui. Si on relie justement les ordolibéraux allemands, notamment à Huken ou à Röpke, ou Rousseau d'ailleurs, il dit État fort pour une économie saine. Donc il faut éventuellement parfois que l'État intervienne pour réguler, pour protéger éventuellement un territoire, protéger une économie aussi.
En un mot, Jean-Claude Monod, l'ordolibéralisme, c'est très particulier comme notion. Et c'est ce qui a eu lieu en Europe. Et par certains côtés, c'est beaucoup plus sympathique que le néolibéralisme à l'américaine.
Alors bon, l'appréciation, Antoine Garapon, ça je la laisse à chacun. Effectivement, en tout cas, c'est une forme de néolibéralisme qui est moins agressive que celle qu'on a associée à l'ultra-libéralisme d'Hayek ou de Milton Friedman, qui en plus se dissociait assez facilement d'exigences démocratiques. C'est-à-dire là, il y avait quelque chose d'inquiétant dans le fait que, au fond, parfois on avait l'impression qu'ils étaient prêts à défendre la liberté du marché, et la liberté d'entreprendre, la liberté de consommer, avant et au-dessus des libertés publiques, des libertés démocratiques, ce qui rendait possible leur soutien à quelque chose comme le Chili de Pinochet. Mais ça, c'est une figure extrême. C'est vrai que l'ordolibéralisme allemand, moi, me semble plus recevable.
Plus européen, en tout cas.
Et plus européen, et qui est parti justement de cette expérience d'effondrement économique de l'Allemagne dans les années 20, et a été, au fond, ensuite, a inspiré, évidemment, la politique économique de l'Allemagne, et sans doute de l'Europe, même si au départ les ordolibéraux allemands donc étaient plutôt méfiants, parce qu'ils étaient assez méfiants vis-à-vis de ce qu'ils appelaient la mégalolatrie, les grands dispositifs. C'était plutôt des gens qui défendaient des petits états. Au fond, il y a un idéal suisse.
Mais Jean-Claude Monod, vous posez une très bonne question qui personnellement me perturbe beaucoup, qui est l'Europe comme puissance néolibérale. Est-ce que ce à quoi nous avons assisté depuis de ces 20 dernières années, c'est-à-dire que l'Europe, qui me semble être une solution et même l'échelle de pertinence, est en même temps ce qui bloque la politique.
Oui, il y a eu sans doute dans la construction européenne quelque chose qui a à un moment pris un cours ou qui a été peut-être dévié. Alors, c'est vrai qu'il y avait peut-être à l'origine une certaine méfiance envers les peuples. Et on peut dire qu'après 1945, après d'ailleurs 1933 en Allemagne, ces néolibéraux, ordolibéraux se disent qu'il faut protéger l'état de droit, il faut protéger les libertés éventuellement contre les masses, contre le peuple. Et il y a quelque chose de ça dans l'Europe. On dit on va sanctuariser la politique budgétaire, on va mettre des choses hors de portée de la souveraineté
gouvernement,
populaire.
En fait.
On se soustrait en fait au point de vue de la souveraineté populaire et de la souveraineté évidemment nationale. On adopte ce point de vue de la subsidiarité, c'est-à-dire quand on peut préférer le marché à l'État, on va préférer le marché. Et alors ce sont des choses qui sont peu à peu imposées jusqu'au point où on a eu l'impression qu'effectivement il y avait une politique qui était imposée, une seule politique économique qui était possible, puisqu'elle était sanctuarisée en quelque sorte, et qui s'imposait et qui soustrayait au peuple finalement la possibilité de choisir entre différentes options.
C'est
donc il y a eu ce sentiment de dessaisissement démocratique sous l'effet sans doute de cette vision qui est devenue néolibérale, qui n'était sans doute pas à l'origine.
C'est ça. Mais... Alors dans votre ouvrage, Jean-Claude Monod, vous dressez une ligne qui est très intéressante à partir des crises de gouvernementalité, c'est-à-dire à partir des moments où on ne supporte plus d'être gouverné d'une certaine manière. C'est plus profond qu'un changement de gouvernement. Et vous identifiez trois moments sur lesquels on va revenir rapidement, si vous voulez bien, parce qu'ils sont très importants pour comprendre le nôtre aujourd'hui. Il y a le moment de la réforme, la fin du 18e, la Révolution française, et puis cette révolution néolibérale, pour faire court.
Oui, alors là, je suivais des indications de Michel Foucault dans des cours de la fin des années 70, qui dit qu'effectivement, il y a ces crises de gouvernementalité qui scandent un peu l'histoire européenne, et ce sont ces moments où les gens disent « nous ne voulons plus être gouvernés ainsi, nous ne voulons plus être gouvernés par ceci, nous ne voulons plus être gouvernés, ou nous ne voulons plus être trop gouvernés ». Et la première expression qu'il en donne, c'est effectivement la réforme, c'est-à-dire en fait un ensemble de mouvements, de contestation de la corruption de l'Église, et d'exigence d'un rapport plus direct à la, oui, au livre sacré.
Et d'un pouvoir paternaliste, on pourrait dire ce qu'il appelle le pastorat. Ou le...
Oui, alors c'est la contestation du pastorat chrétien, le pouvoir pastoral. Cela dit, évidemment, la réforme, c'est une relance du pouvoir pastoral.
Oui, mais sur un mode plus individualiste.
Sur un mode, en un sens, peut-être plus démocratique et plus individualiste, ou qui fait davantage droit au droit du sujet, justement, d'interpréter, se faire sa propre idée de la Bible. Et ça a eu évidemment des effets considérables aussi au plan politique, sans doute, même si les réformateurs eux-mêmes étaient très ambivalents sur... et Luther a voulu plutôt retenir les effets politiques de la réforme.
Mais il y a eu Calvin ensuite. Bon,
et oui, puis, après, il y a des effets très divers. Ensuite, oui, la révolution, enfin la fin du XVIIIe, c'est toute une critique de l'État absolutiste, et l'idée justement qui s'impose que parfois l'État gouverne trop, l'État gouverne mal, l'État prélève trop, et qu'il faut aussi laisser jouer des mécanismes naturels. Et il y a ce thème de l'économie politique.
La main invisible.
La main invisible, donc ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est la défense des droits des individus face à la puissance publique. Donc c'est le libéralisme politique, comme défense des droits. Et qui est évidemment quelque chose de très important et à quoi moi je pense qu'il faut s'attacher aussi et qu'il faut défendre contre certaines tendances radicalement antilibérales aujourd'hui. Et enfin, oui, la troisième crise que pointe Foucault, c'est celle plutôt à la fin du XXe siècle, dans les années 70, c'est la crise néolibérale. Ou à quoi le néolibéralisme veut répondre, qui est une crise d'un État tentaculaire, qui serait l'État. Alors c'est l'État totalitaire, d'un côté, mais c'est aussi un État qui est vu comme trop intrusif dans le domaine de la vie privée, un État qui est vu comme trop intrusif aussi dans le champ de la santé, éventuellement, de l'école, etc. Et donc il y a cette ambiguïté qui fait que, au fond, il y a des mouvements de contestation de l'autorité de gauche qui peuvent converger. Alors, avec.
C'est intéressant ce que vous dites, Jean-Claude Monod, pour notre débat, essayer de comprendre la violence aujourd'hui, du moins cette tentation de la violence ou ce retour de cette question de la violence. Vous dites, moi je suis très attaché au libéralisme politique. Est-ce que ça veut dire, ce que j'ai lu dans votre livre, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y aurait une sorte de sommet de la démocratie par certains côtés indépassable, et ceux qui veulent la dépasser par une surmodernité ou une postmodernité se trompent et nous ramèneraient peut-être en deçà de ce moment politique. Ce moment politique, c'est le moment où il y a des institutions démocratiques, mais bien des institutions.
Oui, je pense qu'il y a un peu un rêve ou une illusion qui est celui d'une société absolument transparente, d'une démocratie absolument sans médiation, sans institution, où le peuple exercerait son pouvoir sur un mode absolument direct.
Ça c'est très près. On l'entend beaucoup aujourd'hui, ça.
Oui, on l'entend beaucoup. Pour des raisons, pour une partie justifiée, qui tiennent au sentiment que les institutions ne fonctionnent pas bien, que la démocratie représentative est limitée et n'arrive pas à faire droit à des aspirations populaires, que parfois il suffit du suffrage à une élection qu'on remporte d'assez peu pour imposer des projets dont grande majorité de la population ne veut pas. Donc il y a un sentiment que les mécanismes de la démocratie représentative libérale, au fond, ne sont pas satisfaisants d'un point de vue démocratique, et je pense qu'il faut l'entendre. Je pense qu'il faut l'entendre aussi parce que certainement il faut trouver d'autres, sans doute plutôt démultiplier les modes de représentation, les modes aussi d'intervention populaire, y compris d'ailleurs le référendum. Donc je pense qu'il y a un sentiment, et si ça ne trouve pas de débouché, je pense que ça se traduit aussi par de la violence, que la violence naît aussi du sentiment d'une insuffisance des médiations et d'une insuffisance de l'effet des protestations populaires. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose qui se joue. Mais c'est sûr qu'il y a aussi une illusion, à mon sens, dans l'idée d'un pouvoir absolument sans médiation et direct du peuple.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith.
ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing.
Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
France Culture, toujours avec Jean-Claude Menaud ce soir pour parler de la violence. Jean-Claude Menaud qui a choisi de nous faire entendre cette célèbre chanson de Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Jean-Claude Menaud.
Oui, bon, d'accord. D'abord parce que je trouve que c'est une voix, une des plus belles voix du XXe siècle. Mais aussi parce que cette chanson est assez poignante puisque les graines, tout ce qu'elle n'a pas, elle n'a rien. C'est une chanson sur le dénuement qui renvoie sans doute aussi à l'expérience, évidemment, de Noirs américains pendant des siècles et des décennies. Mais finalement, elle a quand même toujours la vie et donc, même quelqu'un qui n'a rien, cette espèce de force de résistance dont je pense Nina Simone est une belle incarnation.
Tout à fait, tout à fait. Alors, vous parliez, on peut faire le lien d'ailleurs avec la condition des Noirs américains, c'est de voir les limites du formalisme démocratique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des institutions brillantes, comme c'est le cas aux États-Unis, qui fonctionnent, qui ont une très grande réputation et en même temps qui laissent qui excluent de la communauté politique une grande partie. D'ailleurs, la Cour suprême ne va cesser tout au long de son histoire que d'agrandir la communauté politique américaine, aux Indiens, aux Noirs, aux esclaves, etc. Mais alors, revenons à cette histoire que vous dressez, donc ces passages du protestantisme, de la révolution, du néolibéralisme, Jean-Claude Menaud, qui sont quand même tous précédés ou accompagnés ou issus d'une violence extrême.
Oui, je pense qu'on peut vraiment relire l'histoire de l'État moderne et des grands mouvements, d'ailleurs aussi des mouvements idéologiques qui ont cherché à en redéfinir le périmètre, comme aussi une histoire de la violence et une histoire du rapport à la violence. Et justement, on peut repartir, ce qu'ont fait beaucoup d'historiens et de grands juristes aussi, des guerres civiles confessionnelles, qui sont un peu le terreau de l'État moderne. C'est-à-dire l'État moderne s'est imposé pour mettre fin aussi à des guerres civiles extrêmes entre des ennemis absolus, c'est-à-dire les ennemis religieux, confessionnels. Et là, l'État s'est imposé comme l'instance tierce capable justement de faire régner ce qu'on appelait la paix de religion. C'est-à-dire, la religion n'arrivait plus à faire régner un ordre, puisque c'était devenu même le terrain fratricide par excellence. Et donc, l'État s'impose comme une instance souveraine, mais qui va se faire respecter par les différentes confessions.
Et d'ailleurs, il y a un déplacement des croyances, qui vont des croyances religieuses vers une sorte de religion civile autour ou de moins de respect profond, quasi sacré, de la Constitution et de ses institutions.
Oui, alors il y a eu beaucoup de variantes au fond dans la réponse. Il y a justement l'État absolutiste qui d'une certaine façon reporte sur lui-même la sacralité. Il y a l'idée de Hobbes que c'est l'État finalement qui impose une religion minimale. Il y a l'idée de la religion civile. Bon, il y a toutes sortes de formules, mais je pense qu'en tout cas à un moment, voilà, l'État prend le pas. Et ensuite, effectivement, on peut dire qu'au XVIIIe siècle, cet État est vu comme trop puissant, invasif, etc. Et on cherche à redéfinir les droits des individus et les droits de la société face à cet État, y compris par la Révolution. Et je pense que c'est là où, évidemment, la violence, on retrouve son ambivalence, c'est que la violence peut être ce qui détruit. Et alors, il y a la question de savoir si la violence peut créer du droit, être à l'origine d'un nouveau système plus juste. La violence comme vecteur d'une transformation sociale. Et évidemment, c'est un grand thème. Au fond, vous parliez du mouvement civique aussi, du mouvement des droits civiques, implicitement, Antoine Garapon aux États-Unis. Et bon, il est connu qu'une des grandes formes de ce mouvement, ça a été la non-violence. Mais la non-violence entretenait un rapport à la violence tout à fait explicite. Hein. On trouve chez Martin Luther King l'idée que la non-violence recueille la vérité à la fois de la violence et du consentement. Oui, c'est-à-dire qu'elle maintient la possibilité de la violence pour contester un ordre injuste, mais elle préférera toujours la non-violence. Et je pense que c'est important parce qu'au fond, ça n'est pas un refus angélique, inconditionnel de la violence. C'est l'idée que pour contester un ordre, on peut avoir besoin de la violence. Et d'ailleurs, sans doute, Malcolm X prenait en charge cette possibilité. Et c'était important qu'il y ait les deux,
Qu'il y ait la fois. Mais parce que pour moi, le mouvement des droits civiques est une sorte de modèle. De modèle à tous les sens du terme. Oui. De modèle politique, de modèle social, de modèle quasi spirituel, hein, de la part de Martin Luther King. Mais qui a été assassiné au moment où il passait aux droits sociaux. Où il s'attaquait au plus dur, en quelque sorte. Aujourd'hui, nous sommes aussi traversés par une nouvelle forme de violence sur laquelle vous avez travaillé, Jean-Claude Menot, qui est très déroutante. Parce que si la violence dont Martin Luther King voulait prendre, en quelque sorte, s'inspirait des deux pièges dans lesquels ne pas tomber, ni celui du pacifisme, ni celui de la violence totale, on est aujourd'hui confronté au terrorisme dont on ne sait pas quoi faire. Une violence dont on a l'impression qu'elle ne va accoucher de rien du tout, Jean-Claude Menot.
Oui, il y a aussi évidemment une violence nihiliste ou une violence absolue, c'est-à-dire dont on a l'impression qu'elle se pose des buts avec lesquels il est impossible au fond de se concilier. Alors on peut dire, il y a évidemment une discussion sur la violence terroriste dans le cas du djihadisme, puisqu'en un sens on renoue ici avec justement la forme de l'hostilité absolue des guerres confessionnelles. Donc en un sens ça n'est peut-être pas nihiliste, c'est peut-être plutôt une sorte d'absolutisation d'un but à quoi on subordonne tout le reste, qui a été quand même une des grandes formes de la violence aussi au XXe siècle. C'est-à-dire on pose un but suprême, l'instauration d'un Reich de 1000 ans ou l'instauration de la Troisième Rome, etc. Et tous les moyens sont bons pour l'atteindre, y compris l'extermination de masse. Donc ça, on connaît. Et en un sens, Daesh, ça présente quelques traits communs avec
Mais est-ce que c'est pas ça le radicalisme ? Est-ce que la radicalisation ou le radicalisme ou cette fascination pour ce qui est radicalisé aujourd'hui et pas uniquement chez les terroristes, est-ce qu'elle n'est pas dans ce que vous appelez une violence absolue, violence dont on peut rien faire?
Oui, alors bon, radicalité, je sais pas, c'est peut-être un mot sous lequel on peut mettre trop de choses,
très ambigu,
un mot ambigu, et je pense qu'on ne peut pas sans doute mettre sur le même plan des formes de contestation de l'ordre économique qui emprunte parfois la forme effectivement d'un activisme ou de la destruction de certains biens. Moi, je pense qu'il faut toujours faire une distinction très forte.
On reste dans le symbolique.
On reste dans le symbolique entre des actions symboliques qui détruisent des biens, y compris dans les beaux quartiers, actions qui visent des personnes,
qui ne touchent pas au corps.
Ces actions
radicales sont très symboliques, mais ne touchent pas au corps.
C'est là une différence qui reste évidemment très très importante. Mais il est possible qu'on voit périodiquement ressurgir quelque chose comme effectivement une violence qui est valorisée pour elle-même. Hein. Il peut y avoir aussi une exaltation de la violence, comme au fond étant le vrai moment, le moment le plus intense de la vie sociale. Et là, c'est quelque chose qui, pour
quasi
nous,
esthétique.
Dans l'histoire du XXe siècle, renvoie plutôt peut-être au fascisme, à l'esthétisation de la violence, à une certaine fascination pour la violence elle-même, indépendamment quasiment de ses buts. Là, c'est évidemment la face la plus sombre de la violence, celle qui justement n'enclenche pas un processus de reconnaissance, au fond, mais elle se traduit plutôt par le déni complet de l'humanité de l'autre. Alors qu'il y a des formes de violence dont on se dit qu'elles sont traversées malgré tout par une sorte de dynamique de reconnaissance.
Vous avez analysé ce rapport à la violence à travers des films, d'ailleurs, Jean-Claude Menot, et dans ces films-là, il y a Orange Mécanique, où c'est finalement on asservit complètement le sujet violent. Il y a Minority Reports où on va anticiper de manière et à chaque fois on a manqué quelque chose de l'ordre de cette reconnaissance, de cette possibilité de faire quelque chose ensemble.
Oui, je pense que ce sont des films frappants parce qu'aussi ils présentent l'idée d'une sorte de renversement, c'est-à-dire ce sont des projets d'extirpation radicale de la violence. Que ce soit la violence du voyou qui a assassiné, violé, etc. dans Orange Mécanique et qu'on réduit vraiment à l'état de soumission totale. C'est-à-dire à la fin, il doit lécher les chaussures de ses maîtres et on lui détruit le cerveau. Ou bien dans Minority Report, c'est l'idée comme ça d'une prévention par prévision des crimes et on s'aperçoit qu'en fait ça n'est pas possible et que cet idéal de prévention tourne au cauchemar. Donc il y a l'idée que l'extirpation totale de la violence, l'idée qu'on peut complètement l'éliminer, se retourne finalement en violence et en négation, soit de l'indétermination de l'avenir dans Minority Report, soit de l'humanité de celui qui est un criminel, certes, mais toute la pénalité moderne est construite sur l'idée que même le criminel doit pouvoir bien sûr réintégrer la société et que, comme dit Kant, tu vaux mieux que tes actes, oui, c'est-à-dire qu'il y a un horizon d'humanité qu'il faut réserver et préserver.
Et puis une manière de ritualiser aussi, de déplacer. Et je crois que la logique du droit et la logique de la peine, c'est pas une logique d'équivalence, c'est une logique de toujours un peu moins. Toujours un peu moins que la violence que tu as commise.
Oui, je pense qu'en tout cas, il y a une époque du droit. On peut dire peut-être le droit à l'origine, c'est un peu une logique d'équivalence, c'est l'œil pour œil, dent pour dent, etc. Mais qui est même une façon de limiter. Hein, parce que on peut dire que la vengeance, c'est vous avez tué une personne, j'en tue 100. Oui. Donc œil pour œil, c'est déjà une façon de limiter. Mais ensuite, il y a l'idée effectivement que la puissance publique ne peut pas répliquer à des actes délictueux ou criminels sur le même mode, sinon justement il y aurait une sorte de déchéance par rapport à la rationalité légale, rationnelle, étatique, et donc ça implique de ne jamais être dans un mimétisme par rapport à la violence nue, mais toujours de la métaboliser, effectivement de répondre sur un mode qui empêche sa perpétuation ou son développement.
Alors la métaboliser, disiez-vous, je pense à cette phrase de Pierre Hassner que personnellement je trouve très bien formulée, mais je crois que vous le rejoignez. L'essence de la politique, dit-il, consiste non pas à supprimer la force, mais à la domestiquer pour la faire servir à sa propre négation. Jean-Claude Monod.
Oui, je pense qu'il y a cette idée qui est importante, qu'effectivement, s'assigner comme horizon l'élimination totale de la violence, c'est souvent une illusion qui risque d'ailleurs de se renverser en déchaînement, parce qu'on dit, voilà, c'est la dernière violence, c'est la der. Maintenant, on va éliminer les ennemis absolus qui nous empêchent encore d'atteindre ce but, et donc, paradoxalement, ça peut produire un déchaînement de la violence. Alors que se fixer comme objectif de la diminuer, de l'amoindrir, de la transformer, c'est sans doute, bon, c'est d'ailleurs l'opération du droit, c'est l'opération de la politique quand elle n'est pas une politique justement absolue, mais quand elle se donne un but aussi qui maintient la reconnaissance de l'adversaire, je pense, ou du criminel, etc. Et c'est effectivement un horizon à la fois sans doute plus réaliste et plus efficace pour combattre la violence.
Alors Jean-Claude Monod, on arrive presque à la fin de cette première émission sur la violence dans laquelle vous avez dressé ce panorama à la fois analytique, philosophique, mais également cette historicisation de notre et donc un peu de prospective, un peu de futur dans votre réflexion. Comment est-ce que aujourd'hui, à votre avis, dans quelle direction vous verriez une manière de rester libéral, si je vous ai bien compris, de rester libéral pour mieux combattre le néolibéralisme, les ravages du néolibéralisme? C'est un peu ça, finalement, l'enjeu aujourd'hui.
Je pense qu'enfin, on peut aussi, oui, le formuler comme ça, c'est-à-dire de préserver l'héritage du libéralisme politique dans ce qu'il a de précieux pour les droits des individus, pour aussi l'idée des contre-pouvoirs qui doivent limiter les pouvoirs. Hein. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, comme disait Montesquieu. Et tout ça, c'est un héritage très important et qui a été, en un sens, subverti, je pense, par le néolibéralisme qui a donné trop de poids au pouvoir économique. Et il y a une question qui est de savoir comment combattre aussi ces formes de violence indirecte ou de contrôle indirect par l'économie. Et alors un auteur intéressant qu'on n'a pas cité jusqu'à présent, c'est John Dewey, un philosophe américain de la démocratie, qui lui pensait justement qu'il fallait compléter le libéralisme politique par cette prise en compte de la domination économique. Au fond, les libéraux du XVIIIe siècle ont combattu les pouvoirs de l'État excessifs, mais il y a aujourd'hui des pouvoirs énormes, GAFA, des pouvoirs qui nous orientent notre comportement jusque dans le détail de notre vie et de notre intimité, et qu'il faut aussi penser comment combattre cette domination économique, et aussi d'ailleurs sur le plan de la dévastation écologique.
Qui est vous insistez, mais quand vous intitulez votre livre, Jean-Claude Monod, L'art de ne pas être trop gouverné, on pense spontanément, en héritier des Lumières, comment ne pas être trop gouverné par le pouvoir, par le pouvoir d'État. Mais aujourd'hui, nous sommes gouvernés par d'autres pouvoirs invisibles et qui sont, comment dirais-je, je dis pas que nous leur léchons les bottes, mais nous sommes très complaisants à l'égard de ces pouvoirs d'Airbnb, des GAFAM, de ce qui organise nos vies.
Oui, bien sûr, la grande force de cette réorganisation et de ce redéploiement du pouvoir économique qui s'est effectué, à la faveur d'ailleurs aussi de nouvelles technologies comme le numérique, bien sûr, c'est qu'il prend effet aussi sur nos désirs. Bon, de toute façon, il y a un rapport obscur et complexe que Foucault analysait, ou Deleuze, ou d'autres.
Et qui vaut pour la sécurité aussi. Nous désirons la sécurité.
Oui, bien sûr, il y a une dimension d'appel, une dimension de désir qui ici est très forte, au point que des choses dont on avait l'impression qu'elles étaient très précieuses, qu'il fallait les défendre, comme la privacy, la sphère de l'intimité, etc., les gens sont prêts à tout à fait l'exhiber, à en donner toutes les données gratuitement à des firmes qui vont les exploiter. Donc il y a effectivement quelque chose aujourd'hui d'assez abyssal dans le bouleversement de ces frontières-là.
Et pour lequel peut-être Foucault ne nous aide pas tellement développant une critique à la fois du despotisme, bien sûr, mais aussi du libéralisme et même de la raison par certains côtés.
Alors bon, ça c'est une espèce de débat que j'essaye de développer dans tout le livre, parce que c'est très compliqué à mon avis. Il y a des aspects de la pensée de Foucault qui restent d'une extrême pertinence aujourd'hui face au déploiement de formes de pouvoir, justement, qui sont des micro-pouvoirs, comme il dit, qui est des pouvoirs qui ne sont pas du tout sous la forme du souverain et dans son rapport au sujet, mais de choses qui prennent effet justement dans notre intimité ou dans nos corps. Et ça reste très actuel. Et même si c'est sans doute pas le panoptique, la prison, c'est un autre régime qui ne joue pas tellement sur la visibilité, mais qui joue plutôt sur l'attention.
Est-ce que aussi la difficulté de Foucault dans ce débat aujourd'hui, c'est finalement l'issue qu'il propose, qui est une issue un peu stoïcienne, le souci de soi, et qui est une issue assez individualiste, alors que j'ai cru comprendre dans votre livre, vous dites non, au contraire, il faut qu'on reconstitue du collectif, notamment pour les enjeux fondamentaux, globaux, comme l'écologie, bien sûr.
Oui, je pense qu'il y a une limite. Bon, Foucault s'est défendu de dire que c'était individualiste, parce qu'il disait que, fond, le souci de soi, c'est toujours en même temps le souci de l'autre, et ça n'empêche pas de construire des sortes de communautés affectives ou électives. Mais je pense qu'il y a eu une sous-estimation par Foucault de la nécessité de la puissance publique, au fond, et de la nécessité, sans doute, de l'État pour affronter des enjeux comme ceux qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs, la crise sanitaire ou la crise écologique. Je vois mal, au fond, comment des petits groupes ou des individus par affinité. Alors s'il y a des gens qui trouvent des formes de vie un peu en marge, hors marché, qui développent des modes d'échange, des modes économiques, des expérimentations, mais on voit que c'est un peu des groupes en un sens dont le mode de vie n'est sans doute pas généralisable, et dont le rapport à la puissance publique reste problématique.
Eh bien, nous resterons sur cette conclusion, Jean-Claude Monod, et on continuera cette semaine de voir cette difficulté, ce paradoxe central de la violence, à la fois détestable et en même temps qui doit être rationalisé. Merci Jean-Claude Monod.
Merci Antoine Garapon.
Matière à penser, Jean-Claude Monod, Manuel Couturier, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Julie Voichet, Anne-Pascal Desvignes, Antoine Garapon. À demain.